fête des mères. Faites-lui plaisir avec un plateau à partager contenant nos nouveaux sushis homards. Célébrez-la en réservant votre plateau, en parfait accord avec votre envie de lui dire merci. Yuzu, c'est toujours bon.
Énergir, c'est beaucoup plus qu'un réseau de tuyaux souterrains. C'est aussi un solide réseau d'humains. Plus de 210 000 clients, de nombreux partenaires et plus de 1 700 employés. Des spécialistes d'énergie et de décarbonation, des ingénieurs, des analystes, des spécialistes en innovation, des techniciens et techniciennes. Vous avez compris. Chez Énergir, on fait aller notre réseau pour avancer ensemble dans la transition énergétique. Et on est loin de s'arrêter. Énergir, pensez l'énergie autrement.
Cet article est-il toujours disponible? J'ai répondu oui, 53 fois.
L'acheteuse a scratché ma télé en la mettant dans son char. Elle m'a demandé un rabais.
En venant essayer ma paire de jeans, la fille m'a raconté sa colonoscopie. Les jeans lui faisaient pas.
La fille qui voulait mon lave-vaisselle a fini par se pointer. En Bixi.
C'est pas toujours facile de vendre, mais avec 70 points de collecte partout au Québec, c'est toujours facile de donner à Renaissance.
Le caucus. Du lundi au jeudi midi, ne manquez pas les explications simples de dossiers parfois complexes. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Du lundi au jeudi midi, dans On en jase.
Boulevard 102.1.
Cette semaine chez Métro, préparez-vous à faire des économies dans le tapis, comme la douzaine de gros œufs blancs sélection offerts à 2,88 et les poitrines de poulet assaisonnées et désossées à 4,88 la livre ou 10,76 le kilo. Aussi, les gros raisins rouges sans pépins sont offerts à 1,99 la livre ou 4,39 le kilo. Pour des économies dans le tapis et pour profiter de 7200 produits en promotion, rendez-vous chez Métro. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin ou sur metro.ca.
On entend souvent l'expression « c'est ton jour de chance ». Mais chez JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, on t'offre deux jours de chance. Parce que les 8 et 9 mai prochains, toute l'équipe a préparé le plus de tracteurs et d'équipements possible. Parce qu'on veut que vous puissiez essayer un vrai tracteur John Deere. Robuste, efficace et polyvalent. Et si vous l'aimez, vous pourriez repartir avec. Pendant deux jours, c'est l'événement « À vous le siège du conducteur ». Comme on dit maintenant, manque pas tes deux chances. Parce qu'il n'y en aura peut-être pas une troisième. Pour plus de détails, va sur jldlagu.com.
Tu fais du commercial, mais t'es tanné de jouer petit? Télio Assurance cherche un courtier producteur en assurance entreprise. Ici, tu bâtis, tu développes, tu performes. Ton portefeuille, tes clients, ton impact. T'as de l'expérience, de la drive et t'aimes sortir du lot? Parfait, Télio veut te parler. Équipe solide, support réel, croissance concrète. Travail flexible, bureau Québec ou Lévis. Prêt à passer au prochain niveau? Écris-nous à rhacommercialtelioassure.com.
Moreau PRS poursuit sa croissance. En plus de sa succursale de Québec, une toute nouvelle place d'affaires ouvrira très bientôt sur la Rive-Sud. Restez à l'affût. Moreau PRS, 40 ans d'expertise et maintenant encore plus près de vous.
Le hockey des séries, c'est vraiment le fun. Mais le hockey des séries chez Québec Pro, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. En plus, 17 pour 10 piastres les soirs de match. Québec Bro, pas pire, hein?
Boulevard.
Québec.
102.1.
Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 10h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachin. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonin Iaccarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlée en semaine.
Look, if you had one shot, one opportunity, would you capture it?
Le Canadien de Montréal est déjà en route vers Buffalo en vue de la série du deuxième tour qui s'amorcera ce mercredi. On connaît aussi l'horaire complet des matchs pour la série. Le match numéro 2 sera ce vendredi. Le retour à Montréal se fera ce dimanche puis mardi prochain. Et ensuite, si nécessaire, évidemment, il y aura match numéro 5 jeudi le 14 à Buffalo, match numéro 6 samedi le 16 à Montréal et le potentiel match numéro 7 sera lundi le 18, toujours à Buffalo. Sinon, nouvelle mineure aujourd'hui, mais le CH a cédé le défenseur Adam Engstrom au Rocket de Laval maintenant que Noah Dobson est de retour en pleine santé. Maintenant, ce soir, dans la LNH, la série entre les Hurricanes et les Flyers se poursuit. Caroline a remporté le match numéro 1, 3-0. Le deuxième match est présenté à 19h, toujours du côté de Riley. Et c'est le début de la série entre les Ducks d'Anaheim et les Golden Knights de Las Vegas. La série s'amorce du côté de Vegas à compter de 21h30 ce soir. Sinon, la LNH annonce les trois finalistes au trophée Bill Masterton, remis aux joueurs qui incarnent le mieux les qualités de persévérance, d'esprit sportif et de dévouement au hockey. Et les trois finalistes sont Rasmus Dahlin des Sabres, Jonathan Toews des Jets et Gabriel Landeskog de l'Avalanche. Au baseball, les Blue Jays se lancent dans une série face à un rival de division à 18h40 ce soir. Les Jays se rendent à Tampa Bay pour affronter les Rays. Sinon, dans la NBA, oui, les Raptors ont été éliminés, mais c'est quand même le début du deuxième tour. Deux matchs à l'horaire ce soir, les 76ers de Philadelphie affrontent les Knicks de New York de 20h. Et à 21h30, match numéro 1 entre les Timberwolves du Minnesota et les Spurs de San Antonio.
Le Top Corner avec Alex Laramie. Gravel. Dans le retour.
Boulevard. Boulevard. 102.1.
Avec Denis, Véro et Audrey.
Ils sont trois!
Vous écoutez Gravel dans le retour.
Cinq heures et quart à Boulevard. Véro, peut-être jeter un œil à la circulation?
Ouais, c'est quand même pas si pire en ce lundi. Les ralentissements qu'on a, il y en a un sur la 20 en direction ouest. Il semble avoir un accident dans le secteur de Chemin des Îles. Sinon, pour l'accès au pont, il y a toujours le ralentissement dans le secteur de Henri IV, mais sinon, ça se résorbe très rapidement si vous accédez à la rive sud. Capitale en direction est, à la hauteur de Robert Bourassa. Le reste, c'est au jaune. Je vous rappelle aussi que dans le secteur de Beauport, il y a un coin qui est fermé à la circulation. C'est dans le coin du boulevard des Chutes, près de la rue Francheville. Deux enfants d'âge primaire qui auraient été happés par un véhicule, dont un dont on craint pour l'état de santé. On parle d'un état de santé grave.
Merci. On va quitter un peu les sentiers habituels qu'on emprunte avec notre invité parce qu'aujourd'hui, on est le 4 mai et je vais mettre un petit peu d'ambiance musicale, si vous le voulez bien. Ben oui! May the 4th be with you! On est le 4 mai, c'est la journée de Star Wars. Et pour parler de Star Wars et de son impact, on va aller rejoindre rien de moins qu'un maître Jedi en économie. Notre ami Francis Gosselin, que vous pouvez lire sur le site du Journal de Québec, entendre du côté de Cube et de LCN du côté de Montréal. Maître Francis, bonjour.
Bonjour.
Je pensais que tu allais l'appeler jeune Padawan Gravel.
Ah, un peu ben déçu. Oui, ça pourrait être ça. Sith Lord Gravel, comment allez-vous?
Ah oui, ben c'est sûr qu'à Québec, on est du côté obscur de la force.
Ah ben,
ça,
c'est sûr.
Tu sais qu'on est rendu avec une gagnée ou une conquise. Il y a 6 mois à peine, elle se moquait des fans de Star Wars. Et 9 films plus tard, avec son nouvel amoureux, ben elle fait maintenant partie de cette grande communauté d'amateurs de Star Wars, notre Audrey Pinchot nationale.
Bienvenue dans le club, Audrey Pinchot.
May the 4th, c'est-tu juste le jeu de mots qui explique la journée?
Oui, en fait, mais ce que j'ai découvert, Denis, c'est que en explorant un peu la chose, May the 4th, qui est évidemment le 4 mai, ça ne vient pas de la communauté Star Wars. C'est okay. une expression qui est apparue pour la première fois le 4 mai 1979 dans un journal anglais le London Evening News, et qui félicitait Margaret Thatcher pour son élection comme première ministre anglaise.
Donc.
Et le Parti conservateur, se trouvant très witty et drôle, a acheté une page de pub et dit « May the 4th be with you, Maggie, Margaret Thatcher ». Et donc, c'est comme ça que c'est né cette expression-là, et non pas de la communauté Star Wars, qui est quand même assez fou quand on y pense.
Je pensais pas que ça datait d'aussi loin que ça. Là, c'est le succès du film original qui fait rage dans ce temps-là.
Ben, le premier film, on le sait, est sorti le 26 mai 1977. Donc, on va célébrer les 50 ans, mesdames et messieurs. Hein? Donc, si vous avez vu ce film-là dans un cinéma, vous êtes officiellement vieux.
ou décédé.
En version originale, attention.
Vieux ou décédé.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu des reprises, Véronique, ouais. Mais donc, dans les faits...
je suis allée voir les reprises et je n'ai pas cet âge.
50 ans, c'est l'année prochaine, en 2027, c'est quand même assez hallucinant. Et donc, la reprise du concept de May the Fourth, là, ça a été seulement en 2012 là, par l'équipe de Lucasfilms. Donc, c'est plutôt récent. Là, ça fait à peine 15 ans qu'on célèbre cette journée officielle. Puis là, évidemment, ben, les pages, toutes sortes de pages, là, Facebook, X, sur TikTok, là, ça y va de ces différentes blagues. Tu connais mon univers préféré, Denis, l'univers des Lego.
Ben oui.
C'est une bonne journée pour acheter des Lego Star Wars. Il y a des soldes, il y a des quadruples des points, toutes sortes d'affaires. Donc, si vous avez des Lego Star Wars à acheter, c'est la bonne journée de l'année, évidemment. Donc, plusieurs se sont emparés de ça.
Et demain, c'est le 5 mai. Ça veut dire que le party est fini?
Non, Revenge of the Fifth. Fait que là, ça continue.
Ça existe pour vrai, ça, là.
Ouais, ben là, je pense qu'on abuse un petit peu de la patience de l'auditoire, mais effectivement, il y a les vrais de vrais fans là, de Star Wars célèbrent deux jours consécutifs. C'est un peu comme enterrer le Christ puis la résurrection. Là, il y a comme deux journées séparées. C'est leur lundi de Pâques. C'est dédié demain au côté obscur de la Force. Donc, si vous êtes dans le 418, là, c'est une bonne journée pour célébrer. Effectivement.
Tu voulais me faire une déclaration d'amour de ce que j'ai compris?
Ben, écoute, je voulais quand même revenir sur cette phrase absolument iconique. Là. Puis bon, Audrey, qui se familiarise avec toute la chose, l'a certainement repéré. Quand on te dit « je t'aime », Audrey, il faut que tu répondes « je sais ». Ce « I know » de Harrison Ford, hein, en réponse à la princesse Léa qui lui déclare son amour, faut dire que c'était pas dans le script original. C'est une inspiration du moment et George Lucas a failli la couper au montage. Tant mieux qu'il l'ait gardée parce que c'est vraiment devenu une espèce de référence là, absolument hallucinante pour les amateurs. Là. Donc non, Denis, je suis désolé, c'est pas à toi que je voulais déclarer mon amour. Et si je le faisais, faudrait que tu répondes oui, Francis, je sais.
Oui, Francis, je sais. Le personnage de Han Solo qui était joué par Harrison Ford, qui était un jeune acteur à l'époque, puis il faisait partie des gens qui avaient beaucoup de doutes sur le potentiel succès de Star Wars. Il avait même déjà dit à George Lucas, écoute, cette merde-là, tu peux l'écrire à la machine, mais ça veut pas dire que nous autres, on peut la dire, là. Dans un...
D'où la nonchalance dans son incarnation du personnage qui a probablement aidé au mythe.
Je pense que c'était un genre de bonne rencontre entre un gars sceptique et un personnage qui avait un peu ça comme caractère à jouer.
Moi, une des choses qui me fascine le plus de l'univers Star Wars, c'est les premières projections où George Lucas avait invité ses amis cinéastes. T'avais Francis Ford Coppola, t'avais Steven Spielberg.
Des petits noms dans le milieu. Là.
T'en avais plusieurs autres, et eux autres sont sortis de là en se disant, bon, ben George Lucas va se péter la gueule. Parce que ce qu'ils ont vu lors de la première projection, il manquait un élément majeur, la musique. Ils ont vu Star Wars, pas de musique. Essayez de vous imaginer Star Wars sans la trame sonore, tu sais, tonitruante de John Williams. Mm-hmm. Ben eux autres, quand ils ont vu Star Wars, pas de musique, ils se sont dit « Ouais, ça va probablement être un gros flop. »
Et puisque tu parles, je vais sauter dans ma liste de fun facts, puisque tu parles de son, très intéressant de savoir que Darth Vader, le personnage qu'on voit à l'écran, était joué par un acteur, David Prowse, qui donc incarnait le personnage, mais la voix n'a été ajoutée qu'après, parce que forcément, comme il ne remue pas les lèvres, on ne voit pas s'il parle ou non. Et donc, c'est James Earl Jones qui a fait la voix plus tard en post-production. Et ce qui est vraiment hallucinant quand on se réfère là, à la fabrication de Star Wars, c'est que Prowse ne savait pas la fameuse ligne « Je suis ton père, Luke, I am your father ». Ce n'est qu'en voyant le film qu'il a appris que son personnage était en fait le père de l'autre. Et donc, ça a été fait comme ça parce que c'était tellement, dans l'idée de Lucas, une révélation hallucinante qu'il fallait que pratiquement personne, même sur la production du film en tant que tel, ne sache le punch. Et donc, il y a quelques personnes qui étaient dans le secret, de quoi donner quand même un petit peu de nourriture aux conspirationnistes là, qui nous écoutent, là, c'était quand même hallucinant.
Mais l'acteur même sur le plateau, David Prowse, ce qu'ils lui ont fait dire, c'est « Luc, j'ai tué ton père ». Puis lui est demeuré convaincu que c'était ça le punch du film, jusqu'à ce qu'il aille voir le film au cinéma. Tu voulais nous parler de Yoda en particulier?
Ben, de Yoda et Chewbacca en particulier, parce qu'en fait, Yoda, initialement, dans la première version du script, ça devait être joué par un singe.
Oh boy.
Yoda devait être un petit genre de chimpanzé là, qui allait porter un masque, tenir une canne, puis tu sais, un peu comme on voit là, des fois dans les cirques, tu sais, faire des genres de mimiques un peu humanoïdes, mais dans les faits, ouais, ben c'est ça, merci de la sonorité. On s'imagine mal ce que ça aurait donné, et surtout, tu sais, il y a quand même une partie du script, le parler,
ben oui,
une partie des enseignements, disons, si on accepte qu'il y a une certaine philosophie derrière Star Wars, il y a quand même une partie du message qui est délivré par Yoda, la sagesse de Yoda, la vision de long terme, l'espèce de notion d'éternité de la force. Et donc, on s'imagine mal ce que ça aurait été avec quelque chose, un genre de comical relief là, qui aurait pu être donné par un singe et non par le marionnettiste Frank Oz qui a finalement été ça. Puis dans le même ordre d'idée, Chewbacca, ça c'est une vraie affaire, les sons qu'on entend ne sont pas faits par l'acteur. Là. Je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui essayent de l'imiter là, dans leur temps libre. Là. Mais en fait, ces sons-là ont aussi été rajoutés en post-production. Et c'est un mélange réel d'enregistrements d'ours, de morses, de lions et de blaireaux qui ont été comme mis ensemble pour former comme un son. Donc, vous pouvez essayer de l'imiter, mais à moins que vous soyez capable de communiquer avec les ours et les blaireaux, là, ça m'étonnerait que vous ayez cette capacité-là précise.
Souvent, la meilleure manière de le reproduire, c'est avec une canette que vous poussez du bout du doigt. Sur certains, tu l'as déjà entendu, ça, français, ça? Il y a comme une petite vibration qui se fait, puis ça se ressemble beaucoup.
Il y a des limites à ma geekitude, quand même, Véronique.
Je suis déçue de toi.
est-ce que le premier film, Star Wars, a été le premier vrai blockbuster de l'histoire du cinéma?
Ben, je sais pas si c'était le premier.
C'était
Jazz, parce que,
le premier.
Jazz, ouais, peut-être.
Ouais, ben, dans les mêmes eaux, mais c'est ce qui est surtout étonnant. Puis ça revient à ce que tu racontais, Denis. Il y avait beaucoup de scepticisme autour du film. Le film a coûté 11 millions de dollars à produire, ce qui en dollars d'aujourd'hui, c'est inimaginable. Aujourd'hui, un film à 11 millions, c'est genre ce que tu fais avec ton iPhone dans ton sous-sol. c'est le coût d'un épisode de Game of Thrones, 11 millions de dollars, là, vous pouvez vous imaginer. Donc, 11 millions de dollars. Et dans les premiers mois, là, ça en a rapporté 77, ce qui est 7 fois ce que ça avait coûté. Puis à l'époque, on se rappelle, il y avait beaucoup moins d'efforts publicitaires de marketing qu'il y en avait, comme il y en a aujourd'hui. Donc, ultimement, ça permettait d'aller récupérer des sommes faramineuses quand le film était un succès. Et on comprend bien, évidemment, pourquoi Star Wars continue de vivre aujourd'hui, parce que la première installation de la série a généré énormément de profits. En tout et partout, on estime que Star Wars a généré 40 milliards de dollars de revenus. Rappelons que Disney avait acheté la franchise pour 4 milliards il y a quelques années. Donc, quand même, un pas pire bargain. Puis la dernière affaire, puis je vais vous laisser là-dessus, mais George Lucas, face au scepticisme d'à peu près tout le monde, avait accepté de prendre juste un salaire, genre quasiment horaire, là, un salaire de réalisateur, en disant « je vais prendre des droits de suite, je vais prendre des droits sur le merchandising, les articles, les objets. Si ça marche, j'aurai du upside. Sinon, ben coudonc, j'aurais été payé mon petit salaire de réalisateur. » Et c'est ce qui en a fait un milliardaire aujourd'hui, tu sais. Tu sais comment, des fois dans le destin, hein, on fait un petit choix comme ça quand on est jeune à 30 ans, 35 ans. On dit « Ah, ben je vais essayer ça. » Puis évidemment, il y a comme une fourche dans la route pour George Lucas. Il aurait pu dire « Je le fais pas » ou il aurait pu dire « Non, je veux être pleinement payé. » Il a accepté de prendre la chance. Puis évidemment, la chance lui a souri. Puis aujourd'hui, il est très, très, très riche.
Écoute, tant qu'à philosopher sur l'univers de Star Wars, les 9 films de Star Wars racontent essentiellement l'ascension d'Anakin Skywalker, qui devait devenir un gentil qui a été corrompu par l'empereur et qui finalement devient le top méchant de ces films-là. Dans le fond, il devient ce qu'il n'était pas supposé devenir. Il devient ce qu'il était supposé combattre. Dans le monde réel, George Lucas, fier réalisateur indépendant qui travaillait avec un budget réduit à nous raconter une grande saga de science-fiction avec des gens qui sont devenus des magiciens marionnettiste, des magiciens d'effets spéciaux, Est-ce que, dans le fond, George Lucas lui-même, au fil des années et des milliards, est devenu le Darth Vader du cinéma? Et est-ce que lui aussi est devenu ce qu'il voulait combattre à l'époque dans le monde de Hollywood?
Il a vendu son âme à Disney, à Bob Iger, peut-être, oui. Je sais pas. Moi, ça reste que, puis certains sont critiques là, de cette transaction-là et ouais. Ça, moi, ça reste que j'ai continué à regarder religieusement à peu près tout ce qui sort. On en a parlé, Véro et moi, là, de Mandalorian. Ouais. Il y a plein
Andor
de séries.
Andor
que j'ai adoré également. Moi, ça reste, pour de vrai, les puristes me chicanent chaque fois que je dis ça, mais pour moi, le meilleur film de Star Wars, encore à ce jour, reste Rogue One. Puis je veux dire, c'est un film de la nouvelle génération.
Ben oui.
Mais pour moi, c'était le petit côté, je sais pas comment dire, rebelle, la vraie rébellion. Pour la rébellion. Puis comme c'est une espèce de gang de jeunes complètement convaincus. Puis c'est toujours intéressant, je vais finir là-dessus, mais Quand on pense à Star Wars, que tout le monde aime, là, enfin, il y a quelques sceptiques, mais tu sais, pas mal tout le monde trouve que c'est une bonne histoire, puis ça fait partie de notre génération et tout. Puis en même temps, quand tu regardes ça, ça raconte l'histoire d'une gang de terroristes qui s'en prennent à l'État, qui vont blower des choses. Tu sais, c'est comme... Tu sais, puis là, on va faire la guerre en Iran, puis on dit de terroristes, ça, mais tu sais, c'est comme... Essentiellement, c'est comme si on faisait un film sur, genre, toutes ces places qui attaquent évidemment l'Empire occidental et qu'on les glorifiait. Donc, il y a comme une grande contradiction,
oui,
je trouve,
dans
cette glorification du terrorisme et de la rébellion violente. Mais que voulez-vous? Ainsi sont faites les bonnes histoires du cinéma.
Très bonne réflexion. Hey Francis, ça a été un plaisir de se jaser dans ces circonstances particulières. Yes. May the force be with you.
May the force.
Salut Francis. Salut. Francis Gosselin, qui est maître Jedi en économie. Rappelons-le, sur Star Wars en général et un phénomène qui, au fil des années, a même fini par gagner Audrey Pinchot.
Oui, fait que là, ça veut dire que la prochaine affaire qu'il faut que je regarde, c'est Rogue One.
Je pleure à toutes les fois que je regarde Rogue One.
Non, mon Dieu, mais là,
à la
fin.
À toutes. Puis je sais comment ça finit. Je l'ai déjà vu mille fois.
Obi-Wan.
Puis la manière dont c'est construit, là, Rogue One, c'est la fin de la série Andor. Puis pourtant, Rogue One est sorti avant, mais c'est tellement bien construit. L'histoire est tellement plus authentique. Il n'y a pas de Jedi, pratiquement, dans cette histoire-là. C'est vraiment une histoire de rébellion faite avec du sang, de la sueur, puis beaucoup de volonté. Je pense que c'est ce qui...
C'est quoi le lien avec Star Wars s'il n'y a pas de Jedi?
La rébellion. Il va falloir que tu réécoutes tes films.
Ben non, mais là, ça, je comprends, mais le point, c'est qu'il y a-tu des
c'est
personnages
c'est parce
communs,
que dans ce bout-là, les Jedi n'existent plus. Ils sont tous en déroute, ils sont tous perdus. On retrouve...
Pour ceux qui restent.
Parce que ça se passe avant le Star Wars original. Le Star Wars original, Obi-Wan Kenobi redevient un Jedi. Okay.
Il pense en avoir trouvé un en devenir.
Ouais. Parce que, tu sais, quand Anakin Skywalker se fâche, là, puis qu'il décide qu'il charcute
toutes
les Jedi...
Oui,
c'est ça.
Ça se passe entre l'épisode 3 et 4. C'est ça.
Ben écoute, je vais...
Puis moi, bien franchement, là, de la façon que Natalie Portman était habillée, avant qu'il parte massacrer des enfants, moi, je serais resté avec Natalie Portman.
Il n'y aurait pas eu d'histoire.
Ouais, j'imagine.
C'est ça l'affaire.
Mais il aurait peut-être réussi à concevoir plus de Jedi s'il
était
resté avec Natalie Portman.
Je me rends compte que ça me prend des personnages liés. Tu sais, mettons, j'ai écouté Obi-Wan directement après parce que, OK, tu sais...
La série Obi-Wan?
Oui, exact. Ouais. Puis j'ai trouvé ça super bon.
Tu l'écoutes au complet?
Oui, je l'écoute au complet.
Moi aussi,
j'aimais ça. Je me suis demandé à quoi ça servait sur le coup. Puis on m'a dit, ben pour qu'il rencontre Darth Vader. Puis tu sais, c'est comme la grande bataille, puis tout. Puis j'étais vraiment, OK, je comprends.
C'est sûr que Leia, enfant, c'est un petit peu... cocombe,
là. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça mignon.
Okay.
J'ai trouvé ça... Non, moi, j'ai trouvé ça cute.
En fait, tu vois pourquoi, là, du front de même.
Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même bien fait. Je l'ai trouvé
bonne.
T'avais
pas tant besoin d'Han Solo dans la vie.
Ouais, c'est ça. Je l'ai quand même vraiment trouvé bonne. Non, moi, j'ai trouvé ça adorable. Mais là, c'est ça, ça m'en prend une où il y a encore au moins un personnage que je connais.
Mm-hmm.
Parce que je pourrais pas, mettons, sortir complètement, je vais dire, de l'univers, mais de ce que je saisis, tu comprends, de l'univers. Mais non, écoute, tranquillement, mais sûrement, mais à date, j'aime bien l'expérience.
Là, t'es sur le bord d'embarquer dans les grands débats philosophiques des vrais maniaques de Star Wars. Qui a le plus gâté l'univers de Star Wars? Est-ce que c'est George Lucas avec la nouvelle trilogie ou c'est Disney depuis qu'ils ont mis la main sur l'Empire?
Le pire, c'est que les...
Qu'est-ce qui est trop chorégraphié comme combat de Jedi? À partir de combien de couleurs de
sabre laser. On a perdu le contrôle de nous-mêmes.
Oh boy. Mais moi, je veux dire que Disney et compagnie, je peux pas dire que ça m'a affecté ou que je suis pas d'accord parce que moi, j'ai aimé.
Toi, t'es reconnu commerciaux.
C'est ça. Moi, j'ai aimé les trois derniers films. Je les ai trouvés super attachants. Le premier, j'étais comme pas sûre, là. Mais je les ai bien aimés. Fait que je peux pas dire que ça a donc bien tout gâché. Au contraire, je trouve que ça a amené peut-être une nouvelle génération.
Exactement.
Ou une nouvelle vague de personnes à s'intéresser à Star Wars.
T'sais, chaque fois que quelque chose sort sur Disney, tout le monde est comme ah, ça va être la série de trop, ça va être le film de trop. Puis là, tu te rends compte dans les codes d'écoute que c'est encore ce qui est numéro un, puis c'est ce qui va aller rechercher des plus jeunes qui vont s'intéresser, qui vont regarder tous les épisodes originaux.
Parce que sinon, j'aurais probablement commencé par le 7, 8, 9. Tu sais, mettons que j'avais pas eu mon amoureux, que non, il faut les regarder dans l'ordre de la sortie, mais d'après moi, j'aurais comme voulu regarder ce qui va être plus récent. Puis après ça, peut-être me replonger, parce qu'elle m'a dit que moi, la première fois que j'ai vu Yoda, là, j'ai failli décrocher.
Chance, c'était pas un singe avec une canne.
Non, mais.
Et pourtant, là, c'est Grogu qui va chercher des jeunes générations qui vont bien l'aimer. Mais finalement, Yoda.
Il était tellement lettre, puis il était pas drôle. Là. On dirait qu'il essayait de comme. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec
détestable.
Au début. Là. Ben, il était détestable, mais je veux dire, j'ai revu justement l'épisode 5 là, quand je suis allée voir l'affaire d'orchestre, puis je me suis vraiment dit, mais mon Dieu Seigneur, une chance qu'ils l'ont fait évoluer après ça.
Il voulait pas être attachant, voyons.
Oui, mais c'était détestable.
Mais là, il avait vécu quasiment la fin de l'univers, la destruction des Jedi, puis là, il vivait en ermite tout seul en mangeant de la mousse. Là,
moi, c'est ça qui me fait rire, c'est tous les gens qui arrivent avec des grandes explications. Tu sais, moi, je suis pas rendue là, mais ça me fait.
Ah, mais t'aimes ça, t'embarques les converses pareil.
Ah, full. C'est super, c'est si adorable.
Plus qu'avant.
Ouais.
17h36, courte pause, on revient.
Gravel.
Terrasse. Visitez le charlie.ca.
Gravel. Dans le retour.
Nous vous écoutons.
Parfait pour vous raccompagner à la maison.
Hey, je sais que c'est une inquiétude que plusieurs d'entre vous aviez et vous êtes sûrement soulagés d'avoir lu les médias en fin de semaine. C'est une question qui se posait beaucoup là, dans l'univers politique des derniers mois. Je sais que c'est une inquiétude pour beaucoup de monde. Comment François Legault va réussir à gérer ses réseaux sociaux dans la prochaine année? Je sais. Je sais que ça vous inquiète énormément. Bien, soyez soulagés. Grâce à 115 000 $ d'argent public, une firme de marketing va soutenir l'ancien premier ministre François Legault dans sa nouvelle vie et gérer ses médias sociaux pendant un an. Je sais que vous étiez très inquiet de ça. Comment il va faire pour continuer de nous suggérer des bons livres? Comment il va faire pour aller sur Twitter tout seul, mettre des photos Facebook? Donc, 115 000 $ de notre argent va servir à ce que François Legault continue de desservir ses médias sociaux.
J'ai des questions.
Vas-y.
Ça veut-tu dire qu'il les faisait pas lui-même, ses médias sociaux?
Probablement.
On peut-tu tout juste fermer?
La loi le permet, donc, d'accompagner d'anciens premiers ministres. Philippe Couillard avait lui aussi bénéficié d'un accompagnement similaire après avoir été battu aux élections de 2018.
Non, mais il n'a pas fait beaucoup de médias sociaux de mémoire. Hein?
Et non, peut-être pas, mais ça n'a pas empêché une firme de gagner un certain montant.
Audrey, on aurait dû se partir en business.
Bien, non.
Je fais pas de faute quand j'écris puis t'es bonne à médias sociaux.
De plus en plus, je t'avoue que des fois, je me demande ce que je fais ici.
Ça aurait-tu un papier sideline?
Tu devrais travailler pour l'agence Spritz qui a obtenu ce fameux lucratif contrat. Et si tu vas sur le site internet de l'agence Spritz, tu vas apprendre que Spritz se donne corps et âme pour faire resplendir ses clients sur leur plateforme sociale. Simplifier pour amplifier, c'est notre devise. Le social nous coule dans les veines. Donner vie aux stratégies, c'est notre travail. Tourner les coins ronds, c'est juste non. Bref, Spritz est une partenaire fiable à long terme, pas un 7-Up flap. Boum!
Tu sais quoi? Ils font super bien, là. C'est parfait, leur affaire.
C'est pas eux autres, le problème.
C'est pas eux autres, pantoute.
Le Québec se doit le cul. On n'est pas capable de faire une pièce avec rien. Mais on a encore le luxe de payer un accompagnement sur les réseaux sociaux d'un premier ministre qui s'en va tant qu'on ne fera pas sérieusement de ménage sur tout ce qu'on va appeler le luxe. Moi, dans le luxe, je rentre l'Office québécois de la langue française, je rentre les SAQ, je rentre un paquet d'affaires où le gouvernement... Tu sais, c'est des affaires où on peut se la péter quand on roule sur l'or, mais on n'est tellement plus là. Hey, imaginez-vous, dans notre société où on peine à loger certaines personnes avec des grosses problématiques de drogue ou de santé mentale ou des gens qui passent à travers un moment difficile, bien, dans cette même société-là, on donne 115 000 $ à une firme pour opérer les réseaux sociaux d'un fucking retraité.
C'est incroyable.
Pensez à ça deux minutes.
115 000 $. Des petits-enfants, des gens à son entourage.
Tu pourrais l'aider?
Tu sais, on parle pas, mettons, d'un... Je sais pas, je sais pas quoi, un psychologue, tu comprends, parce que...
Le retour à la réalité est trop dur.
Non, mais c'est ça, tu sais, ouais. Ça, à la limite, là, je sais pas, OK, là, mais là, les réseaux sociaux, j'avoue que je trouve ça quand même particulier.
Ouais, fait que...
Parce que qui suit François Legault avec passion, mettons, dans les prochains
Yannick
mois?
Yannick Marceau. Hein? J'ai vu qu'il adorait les poses de François Legault, mais encore là, ils peuvent se texter directement, là.
On mérite ce qu'on a, je pense, en général. Hey, changeons-nous les idées un peu. Véro, tu me disais que tu avais la liste des trucs les plus écoutés sur les services de streaming. Ben, on s'était dit qu'on allait le faire une fois de temps en temps.
Sauf que là, il est arrivé quelque chose, les séries de hockey. Et je me rends compte que je passe beaucoup moins de temps devant le téléviseur, puis il y a plein d'éléments qui sortent. Puis, sais-tu quoi? Je suis pas la seule. J'ai eu la conversation avec du monde autour de moi qui sont comme, hey, on est en retard. Et là, comme on a quelques congés d'ici mercredi, bien, on t'a regardé ensemble qu'est-ce qu'il y a de disponible et qu'est-ce qui semble suffisamment apprécié pour se retrouver au top. D'abord, la série Netflix Men on Fire, qui flirte avec la science-fiction et le film de guerre, est au numéro 1 depuis quelques semaines déjà.
Ouais,
ça, je
ne
l'ai pas
quoi.
Regardé. Si vous l'avez vu, 418-971-1021 pour nous texter. Et le film numéro 1 sur Netflix s'appelle Apex. C'est un film qui met en vedette Charlize Theron et Taron Egerton.
Tu l'as vu?
Je l'ai dormi samedi, je l'ai regardé dimanche après le hockey finalement, parce que mon amoureux m'a dit que c'était vraiment bon comme film. Oui, j'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'est un super divertissement. C'est une femme qui est full plein air, est en deuil de son conjoint qui est décédé dans l'année précédente, puis elle s'est comme donné des défis de vie. Sauf que dans son défi de vie, dans ses activités dehors, elle se met à être pourchassée par un os de fou. Le rythme est super bon. Le punch est franchement intéressant. Charlize Theron est tout le temps bonne. Mm-hmm. Elle pourrait faire lire la liste d'épicerie. Puis ça
c'est un film d'action.
C'est un film d'action. Il y a un petit côté psychologique là-dedans. J'ai beaucoup aimé ça. Audrey, je pense que ça serait ton genre de film en couple.
Bien, le pire, c'est que j'arrête pas de le voir passer puis je me demandais.
C'est pas un film Oscar. On s'entend. Mais c'est un film qui est efficace. Puis une fois de temps en temps, ça nous prend le petit film efficace. Du côté de HBO et Crave, il y a Les Hauts de Hurlevent qui ont été rajoutés avec Margot Robbie cette semaine, l'adaptation du livre. Les critiques avaient été moyennes, mais les gens ont sauté là-dessus parce qu'on n'est pas tant allé le voir au cinéma, tandis que du côté des séries télé, même si les critiques ont été horribles envers la nouvelle saison de Euphoria.
Tout le monde regarde.
Tout le monde regarde malgré tout. Puis ils sont super bons d'ailleurs sur leurs médias sociaux. Je ne sais pas s'ils ont une firme qui s'occupe juste d'eux autres. Mais ils trouvent
As-tu
le moyen...
As-tu entendu parler de Spritz?
Ils trouvent le moyen d'attirer l'attention avant la présentation des nouveaux épisodes le dimanche. Actuellement au cinéma, il y a Le Diable s'habille en Prada 2 qui a ramassé 77 millions en Amérique du Nord, qui a ramassé au total à travers le monde, incluant l'Amérique du Nord, 233,6 millions en fin de semaine.
Ça, c'est le film mettant en vedette Bruno Marchand. Oui, c'est ça.
Ouais. Merci d'avoir suivi. Sachez que sur Disney, c'est le film qui est le plus regardé. Fait que des gens qui semblent faire du rattrapage avant d'aller voir la suite du côté du cinéma, alors que Le Testament, qui est issu de l'univers de La Servante écarlate, est dans les séries les plus regardées. Sur Prime, The Boys, qui est à sa dernière saison.
Oui, saison qui est excellente. D'ailleurs, moi, je prends mon pied. Là, j'attends après les nouveaux épisodes.
J'étais à deux épisodes, puis je trouve encore qu'on est dans la même poutine. Là. Il y a des affaires qui me fatiguent énormément. Ça, c'est ce qui est le plus regardé, mais je suis persuadée que si on avait le palmarès québécois, Vitrerie Joyale serait probablement en tête.
Ma blonde veut regarder ça.
C'est le nouveau boss, puis c'est sûr que je vais le regarder. C'est sorti au courant de la semaine dernière.
C'est l'histoire du père de Martin Matt.
Oui, Martin Matt qui incarne son père dans les années 90, un gars qui aime pas le changement, qui veut pas que les affaires bougent, qui veut, tu sais, que ça va trop vite.
J'ai vu la bande-annonce.
Ça a l'air écœurant. C'est le réalisateur qui avait réalisé aussi la série Empathie sur Crave. Donc déjà, tu vois qu'il y a une facture un petit peu plus haut de gamme, mais tout ce que j'entends autour de moi, c'est « Hey, c'est donc ben bon, je pensais pas embarquer comme ça. » Puis le retour aux années 90, c'est très présent autant dans la mode qu'on dirait qu'il y a des générations qui voudraient revivre cette période-là. Je vous en ai parlé beaucoup avec la série sur John F. Kennedy Jr. puis Caroline Bessette. Mais on nous replonge dans les années 90 avec beaucoup d'attention.
C'est une comédie, non? Hein?
On est dans la comédie,
c'est pas un beau malaise,
qui flirte
là,
avec le côté un peu dramatique de pas vouloir le changement. Mais en tout cas, je pense que ça se peu que ce soit mon début de soirée.
Que Florence Lompré joue
Florence
aussi,
Lompré est là-dedans aussi, effectivement.
C'est sur Prime.
C'est sur Prime Vidéo. Et pour ce qui est des films, Balls Up, qui est encore au numéro 1, et Crime 101. Est-ce que je vous ai pas parlé de ce film-là en onde? Hein?
Hey, en passant, juste avant que tu parles de films, oui. Il y a quelqu'un qui est passé à travers Vitrerie Joyale en une journée.
Ah,
il
ouais,
trouvait
hein?
ça excellent. Quelqu'un d'autre qui vient. Oui, OK, tout le monde nous dit la même affaire.
Parfait. Oui. Moi, c'est ma prochaine.
On a des auditeurs qui l'ont bingé au complet en fin de semaine, plusieurs là,
bon,
qui nous écrivent.
C'est ma prochaine. Crime 101, Crime 101, qui est sorti sur Prime il y a peut-être 3 semaines.
Je l'ai vu.
Ça. C'est un excellent film
très
de
bon.
Cambriolage.
Très, très bon.
Qui met en vedette Chris Hemsworth qui joue là-dedans, mais aussi Mark Ruffalo. Une couple de gros noms.
Ben, c'est Hulk pis Thor.
Oui, mais qui joue pas Hulk pis Thor.
Non, c'est parce que c'est deux très bons acteurs.
Ouais,
puis Hemsworth, j'étais pas sûr. Là, je suis sûr. Il est bon, il est très bon.
Il est très talentueux. Ouais. C'est une histoire de cambriolage de très, très haut niveau avec l'enquête qui est derrière tout ça. Mm-hmm. C'est bien exécuté, c'est
Ruffalo
brillant.
En particulier ouais. là-dedans est vraiment bon. Là.
Très nuancé. Fait que si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de film de vol, puis ça, on n'est pas dans l'humour.
Non,
on n'est pas
non,
là-dedans.
Non.
On est vraiment dans un film d'action intense, bien réalisé, surprenant à quelques reprises, un côté très humain aussi qu'on y retrouve, fait que c'est sur Prime Video, puis c'est dans les films les plus regardés, fait que moi je vous le conseille fortement.
Fait que pour les gens qui oui doivent patienter jusqu'à mercredi là, hey, qu'est-ce qu'on va faire 48 heures pas de hockey. Vous pouvez regarder les matchs de la ronde 2, elle a déjà commencé depuis une semaine, mais en attendant, ça commence, c'est vrai que ça commence à s'accumuler ouais. sur les services de streaming, c'est là qu'on se rend compte que veut pas, on est tous un peu entraînés dans le
fou.
Beat du hockey et des séries tant que le Canadien il reste 17h52.